Bonjour, c'est Marion Calais. Je suis ravie de vous retrouver pour ce nouvel épisode de Focus, le podcast de la rédaction de RTL où l'on va parler aujourd'hui bébé et planète.
8 milliards d'humains le mois prochain sur Terre. La population mondiale ne cesse d'augmenter.
À la faveur des dernières projections des Nations Unies et sur fond surtout d'interrogations pour de nombreux jeunes couples, pour de nombreuses jeunes femmes. Est-il raisonnable de mettre au monde un enfant sur cette planète qui se réchauffe aussi bien pour lui et pour son avenir sur Terre que pour la planète elle-même? Faire un enfant, est-ce que ce n'est pas contribuer aussi à l'épuisement des ressources? Ces questions, comme de très nombreux parents aujourd'hui, je me les suis moi-même posées. Et deux enfants plus tard, eh bien, j'avais envie encore de creuser la question. Faut-il arrêter de faire des enfants pour sauver la planète? Pour répondre à ces questions, une démographe dans ce focus, Bénédicte Gastineau, bonjour.
Bonjour.
Vous travaillez à l'Institut de recherche pour le développement sur les questions de croissance démographique, en lien notamment avec les changements environnementaux. Alors, d'abord sur ces projections des Nations Unies, 8 milliards d'êtres humains en cette fin 2022, 10 milliards entre 2050 et 2100. Ces chiffres-là, très honnêtement, ils donnent un peu le tournis. Pour qu'on comprenne bien, est-ce que cette progression, elle va en s'accélérant?
Non, ce n'est pas une progression qui s'accélère, au contraire. C'est plutôt, on est plutôt dans une phase où le taux de croissance de la population mondiale est beaucoup plus faible qu'il n'a été précédemment, et notamment dans les années 50 et 60, où il était là nettement plus élevé qu'aujourd'hui. Hein, autour, on a eu jusqu'à des périodes où on avait 2% de la population qui d'accroissement par an, donc c'est effectivement beaucoup plus rapide qu'aujourd'hui. Voilà, parce qu'il y a eu toute une période où on a eu d'énormes progrès en termes d'espérance de vie, donc un nombre de décès plutôt relativement, en baisse, alors qu'on gardait une fécondité élevée. Aujourd'hui, la fécondité a diminué dans beaucoup, beaucoup de pays, donc on est plutôt sur un taux d'accroissement de la population qui est beaucoup plus faible qu'il n'a été. On est autour de 1%.
Donc à l'échelle de la planète, on fait moins d'enfants aujourd'hui qu'on en faisait hier, avec, j'imagine quand même, Bénédicte Gastineau, des disparités importantes d'un continent à l'autre.
Alors globalement, si on reste au niveau des continents, voire même des grandes régions, la fécondité a diminué partout. Maintenant, on n'est pas dans les mêmes dynamiques. On a des zones où on a des très faibles fécondités, voire même des fécondités qui ne permettent pas à la population de se renouveler, donc avec des populations qui diminuent. C'est le cas, par exemple, du Japon. Hein. Le Japon, aujourd'hui, est autour de 130 millions d'habitants et devrait passer autour de 100 millions en 2050. Donc, on est sur une population qui diminue et de façon assez rapide. Et puis, à l'inverse, on a des zones où la fécondité reste comparativement au niveau mondial plus élevée. Donc on pense bien sûr à l'Afrique de l'Ouest, par exemple, et où là, on a des populations qui vont continuer à augmenter encore pendant un certain temps. On cite souvent le Niger comme étant le pays ayant la plus forte fécondité au monde. Donc effectivement, on est encore au-dessus de 6 enfants. Mais même là, ça a déjà commencé à diminuer. Et voilà, donc on a une très grande diversité en fait, et ce qui fait du coup qu'on a un paysage mondial qui se modifie. L'Afrique va évidemment prendre une place dans le paysage mondial plus importante qu'elle ne l'a aujourd'hui, alors que l'Europe par exemple, ou certaines parties de l'Asie, voient leur poids démographique diminuer dans l'ensemble du monde.
Et ce qui est prévu, c'est qu'à terme, autour de 10 milliards, la population stagne. Alors, au-delà de ces projections, je voulais qu'on se penche avec vous sur ce phénomène dont Isabelle Choquet se faisait le relais dans sa revue de presse dans RTL Matin. C'était en juillet 2019.
Certains en viennent même à ne pas vouloir enfanter. Djellal témoigne dans La Croix. Il vient d'une famille nombreuse. Il n'a pas peur de se lever la nuit pour un biberon. Mais je ne me sens pas la force d'avoir des enfants dans le monde qui se prépare, dit-il. La société pourrait très bien ne plus tenir quand il n'y aura plus de ressources suffisantes pour tout le monde. Moi, je ne saurais pas accompagner des enfants dans ce monde-là.
Ou quand la crise climatique remet en cause le désir d'enfants. Cette année d'ailleurs, une étude de l'IFOP pour le magazine Elle a montré que près d'un tiers des femmes en âge de procréer ne veulent pas d'enfants. Et parmi les raisons invoquées, il y a les enjeux écologiques. Est-ce que ça, Bénédicte Gastineau, c'est un mouvement de fond, selon vous?
Bon, alors d'abord, ce n'est pas nouveau, hein, ça fait déjà plusieurs décennies qu'il y a des mouvements de ce type. Alors en fait, je pense qu'il faut distinguer deux choses. On peut avoir, on a des gens, des jeunes notamment, qui disent « je ne veux pas faire d'enfant dans l'état actuel de la planète ou du monde ». Ça, c'est un choix tout à fait personnel et tout à fait respectable. Et puis, il y a un autre mouvement qui dit qu'effectivement, si on continue à avoir une croissance démographique, donc à faire des enfants, c'est un problème pour la planète. Alors, moi, j'ai tendance à penser avec d'autres démographes que le problème n'est pas tant un problème de nombre qu'un problème de mode de vie, en fait. Et du coup, ce n'est pas tant de faire des enfants qui pose problème que la façon dont on consomme et dont on produit, dont on se déplace. Et en fait, on voit bien que tous les enfants n'ont pas le même poids dans, par exemple, nos productions, nos émissions de CO2 entre un enfant qui serait né au Niger et puis un enfant qui naît en France ou aux États-Unis, ce n'est pas du tout le même impact sur la planète, par exemple. Donc, moi, j'ai plutôt tendance à dire que pour imaginer un mode de vie ou imaginer quelque chose qui permette à la fois de préserver les ressources naturelles et en même temps de faire des enfants, c'est bien sur nos modes de développement et de développement au sud et au nord qu'il faut travailler. Sur nos modes de consommation, il faut consommer moins de viande, changer nos façons de voyager, plus que d'arrêter de faire des enfants.
Donc, si je vous suis bien, dans un monde durable, faire des enfants, ça ne serait pas un problème.
Non, et puis c'est... En fait, on voit bien pourquoi est-ce que certains pays conservent une forte fécondité. Pourquoi est-ce que dans certains pays, on continue à faire beaucoup d'enfants? Parce que les enfants, c'est votre assurance santé, c'est votre assurance chômage, c'est votre assurance vieillesse. Si vous n'avez pas d'enfants, vous n'avez personne pour vous prendre en charge quand vous n'allez pas bien, quand vous avez besoin de ressources. Et ce qu'on voit, c'est que dès qu'il y a du développement, c'est-à-dire l'accès à la santé, l'accès à l'éducation, des systèmes d'assurance collectifs, les couples font moins d'enfants, en fait. Il y a une grande rationalité économique à faire des enfants. Et donc, l'idée, c'est de trouver un mode de développement qui permette à ces populations d'accéder à l'ensemble du bien-être, à l'éducation, à la santé. Et ça, on sait que ça permet, presque mécaniquement, ça fait diminuer la fécondité. Donc, vous voyez que tout l'enjeu, c'est ça. Et puis, de notre côté à nous, du côté des pays où il y a déjà des faibles fécondités, et voilà, des pays où la fécondité est faible, voire des pays en décroissance, démographiques sont des pays qui peuvent contribuer beaucoup aux émissions de CO2. Hein, on en est un exemple. Donc, c'est comment nous, on fait un pas de côté ou un pas en arrière pour avoir des modes de production, plus de consommation, donc, je l'ai dit, moins de viande, mais aussi comment on peut produire de la viande de façon plus durable, tout en ayant des situations démographiques qui ne sont pas du tout des croissances fortes en termes démographiques dans nos pays.
Alors, si on prend l'argument de faire des enfants aggrave le problème de la crise climatique et des défis environnementaux, est-ce qu'on est capable de dire aujourd'hui, Bénédicte Gastineau, ce que pèse un enfant dans les premières années de sa vie en termes de déchets ou d'émissions de CO2?
Oui, alors il y a eu des études qui ont été faites là-dessus, mais c'est compliqué parce qu'en fait, qu'est-ce qu'il émet, entre guillemets, qu'est-ce que ça émet la première année, et puis ensuite, c'est qu'est-ce qu'on fait de cet enfant. Si cet enfant, il conduit un SUV à 18 ans, et qui, je fais un peu dans la caricature, mais qui part en week-end en prenant l'avion toutes les semaines, oui, ça, c'est pas durable. Mais on peut imaginer aussi qu'on peut nourrir son enfant avec des produits locaux, on peut utiliser moins de couches ou des couches lavables. On peut partir en vacances avec son enfant plus proche ou en train. Là aussi, c'est comment on change nos modes de consommation des enfants autour des enfants. Et si on fait moins d'enfants, mais que le temps qu'on dégage de ça et le pouvoir d'achat qu'on dégage de ça, on l'utilise pour consommer, c'est pas forcément mieux. Vous voyez, qu'est-ce qu'on met dans la balance entre la vie, le choix de faire des enfants et puis le reste.
Je voudrais qu'on écoute à présent Sereb. Alors, c'est un homme qui racontait chez Éric Brunet il y a quelques mois sur RTL pourquoi lui avait opté pour une stérilisation, la vasectomie en l'occurrence.
j'ai décidé de ne pas vous avoir d'enfants essentiellement pour des raisons écologiques. J'ai la conviction que les générations futures vivront plus difficilement que les générations passées. Ça, c'est par exemple, si on regarde par exemple les alertes scientifiques et si on veut par exemple rester sous l'accord de Paris, et parce que j'ai pas envie d'augmenter la part d'impact environnemental de l'humanité et que j'ai pas envie d'imposer des conditions de vie plus difficiles que les miennes à cet enfant potentiel, j'ai décidé de ne jamais en avoir.
J'ajouterai à ça ce chiffre dévoilé récemment par une ONG, le changement climatique menace 1 milliard d'enfants dans le monde. Ai-je vraiment envie de mettre un enfant au monde dans ces conditions? Ça, c'est une vraie question, Bénédicte Gastineau.
Oui, oui, oui. Alors là, évidemment, ça, c'est un autre, c'est vraiment pour moi un autre sujet, mais et là, qui est vraiment du choix individuel. Et en même temps, il y a des choses, si vous voulez, c'est aussi une question d'échelle et de temps. Il y a des choses qui sont inscrites. Les climatologues le disent très bien. On ne pourra pas agir sur le climat de demain tout de suite, mais on peut, en changeant un certain nombre de choses, on peut limiter le changement climatique, par exemple, si vous parlez du changement climatique. Donc, toute l'histoire n'est pas écrite. C'est aussi à nous de l'écrire. On a aussi des pouvoirs d'agir qu'il faut qu'on mobilise. Et ça, c'est à la fois individuellement, mais politiquement. Moi, je crois beaucoup à l'action politique dans ces conditions-là, dans ces changements-là, aux choix qui sont faits par nos politiques nationales et internationales. Et puis, ce qui est important dans ce que vous dites dans ce milliard, c'est que, alors c'est difficile à, je pense que c'est des chiffres, c'est très symbolique parce que c'est difficile à compter, mais c'est que, moi, il y a quelque chose qui m'interpelle toujours, c'est les inégalités. On voit bien que tout le monde ne va pas être impacté de la même façon et que ceux qui sont les plus impactés, c'est pas forcément ceux qui contribuent le plus au changement climatique. Voilà. Donc, c'est ça qui est aussi important à dire. Donc, c'est peut-être là-dessus qu'il faut réfléchir. Et donc, après, oui, effectivement, mettre un enfant dans… c'est un choix très individuel. Moi, j'en vois beaucoup par mes étudiants, notamment, qui ont ce discours. Mais
vous leur répondez quoi quand ils vous le disent?
Ah, alors, je ne leur réponds pas toujours avec ma casquette de chercheur, du coup. Mais moi, je leur réponds ça. Je leur réponds que… D'abord, que c'est peut-être ces générations-là qui vont nous sauver. C'est eux qui vont avoir des nouvelles idées pour comment on change nos comportements. On le voit bien, il y a quand même une partie des jeunes qui sont extrêmement mobilisés, qui sont très créatifs, qui ont plein d'idées, qui proposent des choses. Donc, j'ai toute confiance dans ces générations-là pour faire autrement. Donc, il ne faut peut-être pas qu'on se prive de toutes ces jeunes générations. Mais par contre, il faut qu'on leur donne les moyens de le faire. Il faut qu'on les écoute. Il faut qu'ils puissent prendre leur place dans le paysage politique. Parmi les gens qui prennent les décisions. Ça me paraît assez. Et puis, il faut qu'on leur offre la possibilité de s'informer, de partager les connaissances qu'on a déjà, de s'organiser eux pour changer les choses.
Voilà, un peu d'espoir aussi avec ces derniers mots et cette question qui n'est donc pas tant sur le fait d'avoir un enfant que sur la façon dont on va l'aider à grandir de façon plus durable. Merci pour vos réponses et votre éclairage, Bénédicte Gastineau, démographe à l'Institut de Recherche pour le Développement. Et cet épisode de Focus que vous pouvez commenter, que vous pouvez noter sur vos plateformes d'écoute habituelles. Focus est aussi à retrouver sur l'application RTL et sur rtl.fr.